Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Oui, il faut arrêter de se faire exploiter la faute.
Quand des gens ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire des bénéfices à une entreprise, et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous.
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler, ouais, les 2 heures. Je suis chômeur, je suis pointé.
Bonsoir.
Et vous êtes bien sur le Canu Info du lundi 7 juin.
Ton micro n'est pas ouvert.
Vous êtes donc bien sur le Canu Info du... Et on arrive. Et avec les micros ouverts, ça fonctionne mieux. Vous êtes bien sur le Canu Info du lundi.
Et puis on commence avec les titres.
Et donc tout de suite à l'international, après les brèves, on aura donc un point sur le MeToo inversé en Corée et un sujet sur la Belgique où plusieurs centaines de sans-papiers en grève de la faim depuis un mois demandent leur régularisation.
Et puis au national, on parlera d'abord de Doctolib, même si on parlera aussi de l'Allemagne à ce moment-là. Et puis on élargira en parlant de Covid et surveillance de masse.
Et enfin au local, on parlera simplement du départ des occupants du TNP qui donc n'occupe plus le TNP.
Et pour finir, on aura peut-être une interview de Kabyle et d'Algériens en direct d'Algérie et de Kabylie sur la situation ultra répressive du moment. Mais on n'a aucune certitude pour l'instant puisque la personne qui devait nous mettre en lien avec eux n'est pas encore arrivée.
Suspense, donc restez jusqu'au bout de l'émission. Et tout de suite, c'est l'heure des brèves.
Et oui, on commence par une info qui date un peu, mais on voulait quand même rendre hommage à Adil Belardim, un syndicaliste italien de 37 ans, tué par un chauffard vendredi 18 juin. Il était sur le piquet de grève des travailleurs de Lidl, donc en Italie, dans le Piémont, quand un camion a décidé de forcer le passage du barrage. Le capitalisme tue donc toujours. Pour rappel, en 2021, en France, on dénombre déjà 150 morts dans des accidents du travail. On les oublie pas et on n'oublie pas Adil Belardim.
Et puis à Paris, vendredi soir, seulement 24 heures après son installation, le campement de migrants sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris. Donc 560 personnes, dont 320 familles, sont maintenant hébergées dans 2 gymnases. Mais pour rappel, il s'agissait donc de personnes sans logement, pour certaines parce qu'elles sont expulsées de leur logement justement, et parmi elles et eux, des primo-arrivants et des réfugiés. L'occupation organisée par l'association Utopia 56 visait à forcer la préfecture à trouver des logements à ces personnes qu'elle ignore tout bonnement sans ce type d'action. Là, c'est la mairie qui a réagi en fournissant ce type d'hébergement très temporaire, ce qui signifie qu'il n'y a toujours pas d'hébergement durable pour ces personnes, donc autrement à la rue.
Connaissez-vous Laurent Simonin? C'est un commissaire de police, c'est l'ancien chef d'état-major de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de Paris au moment de l'affaire dite Benalla en mai 2018. Alors son rôle dans l'histoire, il est simple, c'est lui qui a invité l'ex-chargé de mission de l'Élysée et de Macron à assister aux belles opérations du maintien de l'ordre du 1er mai 2018, ce qui a été confirmé par des SMS qu'il a envoyé à Benalla quelques jours avant. Il est également soupçonné d'avoir transmis des images issues de la vidéosurveillance de la place de la Contrescarpe à Benalla, images qui prouvent que Benalla tabasse bien les manifestants à ce moment-là. Il est depuis mis en examen, toujours en ce moment, pour complicité de port illégal d'insignes, détournement d'images issues d'une vidéoprotection et violation du secret professionnel. Depuis le début de cette mise en examen, il a d'abord été suspendu de son titre de contrôleur général, c'est un haut grade de commissaire, puis il a été réintégré à Dreux en tant que directeur départemental de la sécurité publique adjoint, et depuis quelques jours, ce cher Gérald Darmanin himself l'a promu commissaire général, le plus haut grade pour les commissaires, alors que ce dernier est toujours en examen.
On va parler tout de suite du procès de Valérie Bacot, puisqu'après 5 jours donc, d'audience, elle a été condamnée à 4 ans de prison pour avoir tué son agresseur, violeur et proxénète. Pour rappel, il était le conjoint de sa mère, il violait Valérie Bacot depuis ses 12 ans. Il avait d'abord été emprisonné pour ses agressions, puis a retrouvé le chemin du domicile conjugal et ses habitudes dès sa sortie de prison. Il a fini par quitter la mère de Valérie Bacot et emmener la jeune femme sous sa coupe de manière définitive. Il l'a coupée de toute vie sociale et familiale, il l'a contraignée à se prostituer toujours sous ses yeux, la battait, l'humiliait constamment. Il avait lui-même tatoué son nom sur son pubis, entre autres joyeusetés. Je vous passe les détails de l'enfer vécu par cette femme pendant des années, dont la seule issue ne pouvait être que la mort de l'un ou de l'autre. La justice aurait pu faire le choix de la relaxe. Elle a préféré condamner Valérie Bacot, celle-là même que ni l'État ni la justice n'a su protéger de ses 12 ans jusqu'à ce jour tragique. Pour rappel, en 2021, 57 femmes sont mortes entre les mains de leurs compagnons ou ex.
Et puisque la justice n'est définitivement pas la même pour tout le monde, hein, entre les blancs, les noirs ou les arabes, les pauvres ou les riches, les femmes agressées, violées comme on vient de le voir, ou les hommes puissants qui violent, agressent, eh bien, il y a quelques jours, un nouvel exemple, le parquet de Nanterre a annoncé le classement sans suite de 8 plaintes déposées à l'encontre de Patrick Poivre d'Arvor pour viol, agression sexuelle ou harcèlement sexuel. Or, depuis 5 mois, une enquête pour viol était ouverte contre lui suite à la plainte de Florence Porcel, autrice et vulgarisatrice scientifique, qu'il accuse de plusieurs viols entre 2004 et 2009. Depuis, en plus de l'écrivaine, 22 femmes, écrivaines et journalistes, ont témoigné contre lui et 7 plaintes de plus ont été déposées. Mais la procureure générale de Paris a malgré tout décidé de classer sans suite, soit pour prescription des faits, soit pour insuffisance de preuves, absence de répétition, de pression, de caractère sexualisé des propos tenus ou encore de traces des appels téléphoniques. Une nouvelle fois, comme 76% des plaintes pour viol qui sont classées sans suite, la justice a choisi son camp.
La direction de Deliveroo Lyon avait promis de nouvelles modalités de dialogue social dans sa communication externe et par mail aux livreurs, à savoir que les livreurs pourraient bientôt rencontrer les équipes Deliveroo qui répondraient à leurs questions concernant l'activité de l'entreprise lors de permanences tenues dans des restaurants emblématiques de la ville. En réalité, ces permanences sont tenues par des étudiants embauchés en tant qu'auto-entrepreneurs eux-mêmes par une plateforme appelée Student Pop. Et ces permanences ne visent pas à répondre aux questions des livreurs et encore moins à leurs revendications pour de meilleures conditions de travail. Les étudiants embauchés en sous-traitance font simplement redescendre les consignes de la direction sur, par exemple, le port du masque obligatoire dans les restaurants. Et oui, dans la Startup Nation, même les ressources humaines peuvent être sous-traitées à des travailleurs précarisés qui deviennent les tampons à bas coût entre la politique d'entreprise antisociale de Deliveroo et ses livreurs. Pendant ce temps, la direction ne daigne même pas parler directement aux livreurs, même si leur travail a rapporté en 2018 2,7 millions d'euros de bénéfices à l'entreprise au niveau de la France.
Et puis pour finir, on transmet tout notre soutien aux personnes trans qui se sont faites agresser par des féministes autoproclamées à la Pride de samedi à Paris. Et puis aussi à la militante Sacha, vice-présidente de l'asso Accept ST, qui a été interpellée par la police pour avoir justement arraché une banderole qui niait spécifiquement la légitimité des personnes trans à participer à la Pride.
Et tout de suite, on enchaîne avec... ¶¶
International.
Et à l'international, on commence donc avec la Corée où il y a un MeToo inversé.
Et oui, les mascus s'organisent en Corée du Sud. Donc des groupes de défense des droits masculins ont lancé un mouvement MeToo pour lutter contre les féministes. Les pauvres se plaignent d'être victimes de hordes de féministes enragées qui font rien qu'à se moquer d'eux. Et c'est pas une blague, hein, mais un des symboles de cette campagne de gros bâtards, c'est un émoji. Celui où on peut se voir un pouce et un index se rapprocher et qui serait utilisé pour moquer les pénis de petite taille. Donc leur campagne consiste notamment à porter plainte contre des entreprises qui utilisent l'émoji sur des affiches. Dans la même veine des incels, hein, qui fleurissent un peu partout dans le monde, ces groupes de gros psychopathes sentent leur virilité menacée par la supposée montée des revendications féministes. Alors, je dis supposée, et ça pourrait être drôle, hein, mais la 12e puissance mondiale qu'est la Corée du Sud est profondément patriarcale. Elle est très peu portée sur le droit des femmes. C'est d'autant plus étonnant, donc, ce mouvement. Il existe, par exemple, une mode bien sympa de mettre des caméras cachées dans des lieux publics, toilettes, etc., par des hommes qui ensuite les diffusent sur Internet. Le revenge porn est monnaie courante en Corée du Sud et les sanctions quasiment inexistantes. La culture du viol et de l'appropriation est donc bel et bien ancrée dans la société coréenne. De nombreuses femmes ayant porté plainte pour viol se retrouvent contre-attaquées par leurs agresseurs qui les bombardent de plaintes pour diffamation, la législation étant particulièrement favorable aux agresseurs dans ce genre de cas. Bien que la Corée ait un taux de criminalité extrêmement faible, les violences faites aux femmes sont proportionnellement extrêmement importantes. En 2016, on dénombrait un féminicide par compagnon ou ex tous les trois jours en Corée du Sud. Le pays est classé au 115e rang mondial pour la parité, donc sur 149, c'est pas beaucoup. L'écart de salaire entre hommes et femmes est de 36,7%. Les postes à responsabilité sont complètement investis par les hommes. Il n'y a que 2,1% de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises en 2017. Alors voilà, c'est quand même la grosse blague, hein, ces groupes de défense des droits masculins dans une société coréenne entièrement imprégnée par le confucianisme qui promet peu ou prou le sacrifice des femmes à leurs maris et leurs familles. La hiérarchie entre hommes et femmes se décline à l'infini dans la famille, l'école, l'entreprise. L'avortement est toujours un délit. Enfin bref, ça nous ferait bien marrer si ces gros tarés se multipliaient pas comme des cafards. En Corée, comme ici, désinsectisation totale et radicale à bas le patriarcat.
Et on part tout de suite en Belgique où plusieurs centaines de sans-papiers sont en grève de la faim depuis près d'un mois pour obtenir leur régularisation.
Oui, depuis le 23 mai, plusieurs centaines de sans-papiers résidant et travaillant en Belgique depuis des années ont entamé une grève de la faim pour demander leur régularisation collective. La mobilisation lancée par l'Union des sans-papiers pour la régularisation, qui s'est créée fin janvier 2021, a commencé par l'occupation de trois lieux à Bruxelles pour mettre un maximum de pression sur les autorités belges. Les réfectoires de deux universités et l'église du Béguinage en plein centre-ville. Ils et elles étaient 700 au départ, ils sont encore 475 adultes et enfants à occuper ces trois lieux. Et parmi eux, plusieurs ont des enfants nés et scolarisés en Belgique. Certains y ont vécu depuis plus de 10, 20 ou 30 ans sans être régularisés. Et ils dénoncent la politique migratoire belge comme l'une des plus sévères en Europe à l'égard des travailleurs sans papiers. Des campagnes de régularisation collective avaient eu lieu en 2000 et en 2009. Mais la campagne s'est faite sur la base d'une circulaire ministérielle qui prévoyait la délivrance de permis de travail selon certains critères. Puis c'était le patron qui devait faire les démarches administratives pour que le permis de travail soit renouvelé. En réalité, beaucoup d'employeurs ont gardé les travailleurs sans permis valide et ces travailleurs ont perdu leurs papiers ensuite. Résultat, selon les chiffres du Centre d'information et d'éducation populaire qui est rattaché au comité, sur 40 000 personnes en procédure en 2009, presque la moitié se sont finalement retrouvées de nouveau sans papiers. Le 23 mai, donc, 430 adultes ont décidé de poursuivre le mouvement d'occupation par une grève de la faim. Deux se sont d'ailleurs cousus les lèvres ce week-end et quelques-uns ont eu des gestes désespérés. Après plus d'un mois de grève de la faim, la situation devient dangereuse pour les grévistes. Les interventions des secours et les hospitalisations se sont multipliées. Depuis le début de la grève, le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Sami Mahdi, a reçu une poignée de grévistes, mais sans céder à leurs revendications. Il a demandé aux grévistes d'arrêter la grève. Il a cherché à les revoir, mais depuis, les grévistes refusent de s'asseoir à la même table si c'est juste pour qu'il leur répète ça. Ce secrétaire d'État à l'asile et à la migration, donc, qui est du parti CDEV, Parti des chrétiens démocrates et flamands, reste inflexible et refuse d'envisager une régularisation collective. À la requête des grévistes de la faim d'obtenir des critères clairs de régularisation et une commission indépendante pour traiter les demandes, il répond que les régularisations exceptionnelles pour raisons humanitaires existent, mais que l'exception ne peut devenir la règle. Plusieurs manifestations de soutien et occupation ont eu lieu en soutien aux sans-papiers grévistes de la faim. Le 9 juin, le siège du PS, qui est aussi au gouvernement, a été occupé. Mardi dernier, une cinquantaine de personnes ont occupé le hall du bâtiment de l'Office des étrangers à Bruxelles, en soutien toujours aux sans-papiers grévistes de la faim. Une partie des personnes se sont enchaînées à l'intérieur et à l'extérieur en réclamant d'urgence un rendez-vous de négociation avec le directeur général de l'Office face à la détérioration des conditions de santé des grévistes. Le directeur de l'Office des étrangers à Bruxelles s'est retranché derrière le ministre, donc le secrétaire d'État Sami Mahdi. Et pour l'instant, aucune suite n'a été donnée aux revendications des grévistes et de leur soutien. Mais en tout cas, nous aussi, on leur envoie tout notre soutien et on leur souhaite du courage pour cette lutte.
Et avant de vous parler de Doctolib et de surveillance de masse, on va écouter tout de suite une chanson de la Parisienne Libérée qui s'appelle « Rien à cacher ».
De santé,
nos poèmes, nos dessins,
nos demandes de congés,
nos premiers chats coquins,
nos recettes de cuisine,
nos relevés bancaires,
nos rencarts, notre planning
et notre compte à découvert.
Rien, rien, rien à se reprocher, rien, 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 rien à cacher, rien, rien, rien à se reprocher, rien, 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 rien à cacher.
Si tu n'as rien à cacher, alors on pourrait mettre une caméra dans ta chambre à coucher et dans ta salle de bain et en publier les images sur Internet. Ou alors si tu n'as rien à cacher, on peut prendre ton login et ton mot de passe sur Facebook ou sous Google, les publier et que chacun puisse aller fouiller dedans.
Nos listes de choses à faire,
nos tendres SMS,
nos écrits de colère
et nos carnets d'adresses,
nos cafés préférés,
nos horaires de piscine,
nos ennemis jurés
et le nom de la voisine.
Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher.
Se dire « Oh, je n'ai rien à reprocher, donc je n'ai rien à cacher » est un petit peu absurde dans un monde où la surveillance est généralisée et où on a vu que c'est à trois niveaux de relations que les individus sont surveillés par la NSA. Donc si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est le frère, peut-être perdu de vue, d'un type barbu qui est soupçonné de commettre des actes de terrorisme, si vous n'avez rien à voir avec cette personne, alors c'est potentiellement tous vos emails, toute votre navigation, tous vos coups de fil, tous vos SMS qui sont espionnés par la NSA.
Nos cartes d'adhérents,
nos radios, nos scanners,
les photos de nos parents,
nos bulletins de salaire,
notre poids en chocolat,
nos drogues favorites,
les vidéos du chat
et nos idées politiques.
Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher.
Ces choses que l'on a envie de garder pour soi, c'est son intimité. C'est là que tu peux expérimenter avec des théories, des hypothèses. Tu peux dire « et si… oh et puis non ». C'est là que se niche ce que l'on pourrait appeler la créativité. Et c'est ça qui est menacé lorsque l'on se sent surveillé, lorsque l'on est surveillé.
Nos mails inachevés,
l'adresse de notre docteur,
notre âge est détaillé,
nos relevés de compteur,
nos préférences sexuelles,
à bien y réfléchir,
sont pas si personnelles
que l'on veut bien le dire.
Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 r
cacher.
En fait, on a tous quelque chose à cacher. Quelque chose à cacher de son petit copain, de sa femme, de son patron, de son collègue, de ses amis. On a tous au moins un quelque chose à cacher de quelqu'un. On voit bien que les comportements changent quand on se sent espionné, quand on se sent surveillé, quand on ne peut plus bénéficier de cet anonymat qui fait partie directement de la protection de la vie privée, comme il fait partie de la liberté d'expression.
Nos lectures matinales,
nos clics et nos cauchemars,
les sources de notre journal,
si on se lève tôt ou tard,
nos entretiens d'embauche,
le montant de nos impôts,
notre conception de la gauche
et la taille de notre bureau. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher. Rien, rien, rien à se reprocher. Rien, 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 rien à cacher.
Toi, tu penses que t'as rien à cacher et que du coup tu t'en fous et que t'as envie de tout donner à Google et à Facebook. Bien, tu te rends pas compte qu'en faisant ça, tu vas aussi donner une partie des communications de tes correspondants, de ta famille, de tes amis à Google et Facebook. On devrait exiger des pouvoirs publics.
C'était Rien à cacher de la Parisienne libérée et on enchaîne tout de suite avec.
Des activités de surveillance.
Et on enchaîne tout de suite avec le national.
Et donc au national, un sujet sur Doctolib, mais on va faire un petit détour par l'Allemagne d'abord. Donc Doctolib, c'est le fameux site de prise de rendez-vous en ligne de consultation médicale et dont le patron, Stanislas Nioxchateau, a largement profité de la crise sanitaire et en profite toujours. Doctolib, là tout de suite, il est pointé du doigt pour avoir, par le biais de son site allemand, communiqué des informations sur ses utilisateurs à Facebook et à Outbrain, une entreprise israélienne spécialisée dans la recommandation de liens sponsorisés. Les données partageaient notamment le type de spécialiste médical que les utilisateurs recherchent sur Doctolib, ainsi que leur adresse IP, ce qui permettait ensuite évidemment de leur proposer sur Facebook des publicités ciblées sur leurs problèmes de santé. Alors, ça nous choque parce que ça touche à la santé, mais Stanislas Nioxchateau argumente que cela reste un fonctionnement normal de cookies et que les utilisateurs ont accepté de partager ces informations. Et il a un peu raison, puisqu'au final, c'est surtout à ça que servent les cookies, à proposer ensuite des publicités ciblées et qui ont donc plus de chances de vous faire acheter des trucs. Mais contrairement à Stanislas, on aurait tendance à trouver que c'est un problème et que cela concerne la santé ou pas. Quant à l'argument des utilisateurs consentants parce qu'ils ont cliqué sur « accepter » avant de pouvoir lire le contenu d'une page, puisque au moins depuis 2016, il est obligatoire de vérifier et d'obtenir ce consentement, il reste questionnable que ce clic machinal, peu informé, auquel parfois on est obligé, sous peine de ne pas avoir accès au contenu recherché, et que des fois, même si on clique sur « non », ça marche quand même, mais qu'on finit par systématiquement accepter pour gagner du temps, il est donc questionnable que l'on puisse prendre ce clic pour un réel consentement éclairé. En tout cas, paraît-il, Doctolib France n'est pas concerné, mais la question demeure. Est-ce qu'il est pertinent d'avoir rendu quasi obligatoire de passer par cette entreprise privée de rendez-vous pour les rendez-vous vaccinaux et ainsi participer à son hégémonie, sachant que déjà aujourd'hui, 90% de l'accès aux centres de vaccination Covid passe par cette plateforme. Et pour finir, on rappelle que Doctolib ne sert pas qu'à prendre des rendez-vous, mais sert aussi de plateforme pour les consultations en ligne, ce qui signifie que Doctolib possède des données beaucoup plus personnelles que simplement le type de spécialiste consulté, et que d'ailleurs ces données sont stockées sur le cloud d'Amazon. Et donc, en utilisant Doctolib, c'est à ces deux entreprises que l'on fait confiance pour nos informations médicales.
Toujours national, on passe à un sujet sur le Covid et la surveillance de masse.
Et oui, pour anticiper les futures crises sanitaires, trois sénatrices et sénateurs, Les Républicains et La République En Marche, ont rendu la semaine dernière un rapport d'information au gouvernement consacré aux, je cite, « crise sanitaire et outils numériques ». En gros, ils y proposent de collecter de nombreuses données personnelles de la population au prétexte d'anticiper les futures crises, en particulier sanitaires donc. Des données qui seraient transférées sur un « Crisis Data Hub », nommé ainsi en référence au Health Data Hub, qui recueille déjà un très large éventail de données sur les soins, l'assurance maladie, les pharmacies, les EHPAD, et dont l'entreprise Microsoft en est l'hébergeur. Bref, selon eux, le numérique et la collecte des données seraient, je cite, un puissant antivirus. Les sénatrices et sénateurs ont basé leur étude sur l'expérience de la crise du Covid-19 en France, mais également dans d'autres pays, en Asie notamment. À chaque fois que les données étaient utilisées de manière assez intrusive, la crise a été plus courte.
analyse l'une des sénatrices. Mais rassurons-nous, le modèle chinois n'est évidemment pas transposable aux pays occidentaux, écrivent les sénateurs et la sénatrice. Avant d'ajouter, on ne peut pas pour autant se satisfaire d'une simple posture d'indignation. La stratégie chinoise est globalement une grande réussite sur le plan sanitaire. Un argument qui n'a évidemment de valeur que pour celles et ceux qui pensent que les chiffres transmis par la dictature chinoise en ont justement de la valeur. Les sénateurs conseillent en tout cas au gouvernement d'adopter des outils encore plus intrusifs. Si une dictature sauve des vies pendant qu'une démocratie pleure ses morts, la bonne attitude n'est pas de se réfugier dans des positions de principe, affirme-t-il. Les sénateurs proposent alors plusieurs idées. Mettre en place des portiques à l'entrée du métro qui sonneraient au moment où un individu contagieux chercherait à passer. Une autre proposition s'inspire d'un outil qui avait été mis en place par des entreprises lors du confinement et dont les employés étaient équipés de colliers autour du cou, des colliers qui sonnaient quand les distanciations sociales n'étaient pas respectées. Mais ne vous inquiétez pas, en bons défenseurs des libertés, les sénateurs ne peuvent quand même pas aller jusque-là. Ils affirment en effet, nul besoin d'un boîtier autour du cou, un smartphone peut faire la même chose avec son Bluetooth et un son de 100 décibels. Autre suggestion qui a été proposée par un sénateur La République En Marche. Si je préfère malgré tout disposer de ma liberté d'aller et venir et que je sors effectivement de chez moi, il est légitime que j'assume en contrepartie une fraction du surcoût payé par la société du fait de l'épidémie. Par exemple, sous la forme d'une petite hausse de mes cotisations sociales si le nombre ou la durée de mes sorties excède un certain seuil. Bref, payer pour être plus libre. Les riches pourront sortir et s'acheter des droits, tandis que les plus pauvres ne pourraient donc plus sortir et seraient confinés. Un confinement, du coup, en fonction des classes sociales. Pour justifier ce projet, les sénateurs et sénatrices pointent du doigt l'absence de connexion entre les différentes bases de données, qu'elles soient publiques ou privées, et en viennent à désespérer de ne pas être plus fliqués comme ce sénateur qui décrit sa propre situation. Vous prenez un portable comme le mien, j'ai tous anti-Covid qui a un certain nombre de données, j'ai Oui SNCF qui a un certain nombre de données, si je suis en voiture, j'ai Waze qui me dit où je suis, quand vous passez votre vaccin, c'est une autre application, mais il n'y a pas d'interopérabilité entre ces différentes applications. Ce qu'on leur propose, c'est qu'il y ait cette interopérabilité, conclut-il. Bref, des données médicales qui pourraient être croisées avec des données renseignant sur les déplacements, les individus, leurs dépenses, leurs appels, et j'en passe. Pour convaincre du bien fondé de leur projet, les sénateurs et la sénatrice expliquent que la surveillance effectuée grâce à toutes les données amassées limiterait finalement le nombre d'individus contrôlés, et dès lors, une surveillance plus intensive serait justifiée parce que moins de gens seraient contrôlés au quotidien. Ils argumentent par exemple, face à une menace un peu plus grave, on pourrait imaginer l'envoi automatique d'un SMS à tout individu qui s'éloignerait de son domicile pendant le couvre-feu. Dans les cas les plus extrêmes, des mesures plus fortes pourraient s'avérer indispensables. Un véritable scénario de science-fiction, et avec un flou du coup justement sur qu'est-ce que ça serait ces mesures plus fortes. Qui pourraient, suggère le rapport, être le prélèvement direct du montant d'une amende sur le compte bancaire de l'individu. Bref, le combat contre le virus de la surveillance de masse ne fait que commencer.
Et on enchaîne maintenant avec le
local.
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 Et oui, on enchaîne avec le local, avec on va vous lire un communiqué de presse qui a été écrit par les occupants et occupantes du TNP, dont on vous a déjà beaucoup parlé, qui ont décidé de quitter le TNP ce samedi 27 juin. Nous sommes en juin. Voilà.
2021.
Oui. Étudiantes et étudiants, précaires, intermittentes et intermittents du spectacle ou de l'emploi, fonctionnaires, professionnels de la santé et du social, retraités, usagers et usagères de la culture, nous avons occupé jour et nuit le Théâtre National Populaire de Villeurbanne depuis le 12 mars.
Nous sommes entrés en ce lieu pour revendiquer une année blanche pour tous les travailleurs et travailleuses en emploi discontinu, pour l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage, pour les droits à congé maternité et maladie, pour un plan pour la jeunesse, pour le RSA pour les 18-25 ans et plus globalement pour de nouveaux droits sociaux.
Nous avons aussi porté d'autres combats, comme le retrait de la loi sécurité globale, de la loi séparatisme, la régularisation des sans-papiers, la fermeture des centres de rétention administrative. Nous luttons contre la précarité sous toutes ses formes et sommes également en soutien d'autres luttes, celles des soignantes et soignants, de l'énergie ou contre l'expulsion du lieu autogéré, l'illégalité.
Nous pouvons revendiquer avec fierté des avancées significatives, bien qu'elles soient toujours à relativiser. Les intermittents et intermittentes du spectacle ont obtenu 4 mois de prolongation, mais leurs revenus vont continuer de chuter en 2022. Et les intermittents de l'emploi sont toujours exclus de ce dispositif, comme ils et elles sont exclus des mesures de sauvegarde des droits à congé maladie et maternité. Les primo-entrants entrantes ont obtenu un abaissement du seuil d'heure pour l'indemnisation des intermittents intermittentes, mais avec un âge pivot à 30 ans, qui exclut arbitrairement une partie d'entre elles et eux.
Nous avons obtenu le financement de paniers artistiques par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, qui vont soutenir l'emploi d'artistes et techniciennes et techniciens du spectacle parmi les plus précaires. Mais le volume est très inférieur aux besoins, alors même que de grandes entreprises ont engrangé des profits sur des fonds de secours. L'article 24 de la loi Sécurité globale a été abrogé et une partie de la réforme de l'assurance chômage a été suspendue. Mais l'ensemble de l'application de cette réforme est toujours envisagée par le gouvernement.
C'est donc une évidence. Nous avons autant de raisons d'être fiers du chemin parcouru que de poursuivre notre mouvement. Nous avons des preuves que la lutte paye, que la mobilisation porte ses fruits et nous entendons continuer, ne rien lâcher.
Aujourd'hui, nous estimons que ce n'est plus au sein du TNP que nous pouvons le porter efficacement, mais à l'extérieur. Ce lieu dont nous avons fait notre base arrière, notre point de rendez-vous pendant 3 mois, nous allons maintenant le quitter pour d'autres horizons.
Notre occupation a été un moteur d'une coordination nationale des lieux occupés, dont nous avons accueilli la première rencontre physique en rassemblant plus de 100 personnes de tout le pays pendant 2 jours.
Cette coordination, nous allons maintenant la retrouver. La prochaine rencontre aura lieu le week-end du 3 juillet dans un lieu chargé de symboles. Elle donnera l'impulsion d'une nouvelle phase du mouvement.
Voilà, et donc ce communiqué, il a été diffusé ce week-end au moment du départ de l'occupation du TNP, départ qui a été organisé entre les derniers lieux qui restaient encore occupés en France. Il y a notamment eu à Paris et à Nantes, mais aussi ailleurs, des lieux qui sont partis ce week-end-là. On a décidé ça nationalement. Localement, on a fait une assemblée générale interprofessionnelle ce samedi, donc dernier, où plusieurs secteurs en lutte sont venus. Et on peut déjà vous donner les prochains rendez-vous. Les prochains rendez-vous, c'est le 9 juillet pour Lyon, hein. En tout cas, à la Bourse du Travail, en Assemblée Générale ouverte à tous et toutes à 18h. Et le 9 septembre, à la Bourse du Travail, à 18h, une Assemblée Générale également ouverte à toutes et tous contre la réforme de l'assurance chômage et contre la réforme des retraites, puisque, on le sait maintenant, la réforme de l'assurance chômage par décret d'application risque d'être appliquée au 2 octobre. C'est Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui l'a annoncé. Donc, ils en ont un peu rien à foutre de la décision du Conseil d'État. Donc, il va se passer beaucoup de choses cet été et à la rentrée en septembre.
Et puis avant de passer à notre invité, on a une petite musique, je crois.
Oui, alors cette musique, elle a été écrite il y a 3 ans, 4 ans même, c'était en 2017. Elle s'appelle Tileli Imevas. Désolé pour l'interprétation. Elle revendique la libération des détenus amaziques qui sont des berbères d'Afrique du Nord. Et on enchaînera juste après avec une interview en direct de Kabylie.
My name is Madison, I'm an American, and I demand the liberation of those detained illegally and unjustly in Algeria, and I demand respect for human rights.
Dalila Animator Radio, notre conscience nous interpelle, nous n'avons pas le droit de les laisser mourir en prison. Libérez Bouhaz, Imad Blaid, Hassan Bourras, Hajjaj, Kamel Dinfra et tous les détenus d'opinion.
Rélis Aynouch, dessinateur de presse, pour la libération immédiate et sans condition de Slimane Bouhaz et de tous les détenus politiques et d'opinion injustement emprisonnés. Pour le respect du droit à la différence politique, culturelle, linguistique et religieuse. Vive les libertés individuelles et collectives et vive la démocratie.
Vivre, c'est notre métier. Nous sommes nés pour parler. Nous parlons pour vivre. Nous devons être debout. Être à genoux, c'est un peu mourir. Se taire, c'est trahir ceux qui sont morts pour notre liberté.
حاول وذا ديوني
سرداش ذيق قنن غستف كاو ذا قيث الله وليس قذي تفين ورثي تشقي ذي سنسلا سكذي ما نكذي المري أتوالي أضف ذري كبولي نكوار جين نغير نكوار جين وخيرا نكاين تلاذي ورد السنا وليو ذرذن وليه ذي غيرذن
وين لو الناس أول رضا يدي وريها غست سوث الزفلة سهل موتي سردي تشقيما
جيس كامو ديرني سوف موا محمد بن شيكو جيكزيجري لا ليبراسيون دي زوم كفو ديتني إليغالي
الفخار ذو حفص أول رذايد يوليها ولذات الشريعة وكويقين دايسين وغمصا فيما
الزول دمخناس صعب حبونا جو دوموند لا ليبراسيون دو دكتور كمال دي الفخار إي لا ليبراسيون دو مون بار إي دو مون بوتي فرا إسماعيل إي دي تو
كمل وانتي فغانت سنديلس وانتي حملني ترغل لحكم يخدم فرنس يزكي سنف الفطل يثمر ثفكس نزينس وانتي وعانت تزفل والسينما تناكوي يكوسنا غكا كارن كمل والسينما تناكوي يكوسنا غكا كارن كمل والسينما تناكوي يكوسنا غكا كارن كمل
اوال رغبت يولي زوك ذي ثوغات تنومي اوال
هميس نتل
Yeah.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, c'est toujours le Canu Info du lundi. Et donc, on vient d'écouter...
Tilly Mahves, Liberté aux détenus, une chanson encore plus d'actualité aujourd'hui. C'est un texte du pasteur Martin Hilmer qu'on a adapté en kabyle en français. Un texte, une chanson qui demandait la libération des détenus d'opinion déjà en 2017. Et malheureusement, aujourd'hui, ça continue encore plus fort. La Kabylie, l'Algérie en général, est frappée très très fort par un grand nombre d'arrestations.
Alors justement, pour parler un peu de la situation en Algérie et plus précisément en Kabylie, on a la chance d'avoir en direct Aban Meziane, qui est un journaliste kabyle qui travaillait au journal El Watan et qui anime dorénavant le site L'Avant-Garde d'Algérie. Donc merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour. Alors bonjour, merci pour l'invitation.
En Algérie et plus généralement également aussi en Kabylie.
On discute.
La finale. Exactement ce qui se passe. Donc la situation en Kabylie est très tendue. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons toujours vécu des moments comme tout.
Excuse-moi, je vais te couper deux minutes car il y a eu un petit problème de connexion départ avec la prise mini jack. Donc on va, si tu peux reprendre depuis le début, s'il te plaît, sur la situation actuelle donc en Kabylie et plus généralement en Algérie.
Donc, comme je vous ai dit qu'hier, lors du rassemblement que le collectif Les Amazirs en France a organisé, j'ai eu une discussion avec des militants qui m'ont rappelé la fameuse phrase de Hachmi Chérif, un communiste algérien, donc l'un des leaders du PAX, de l'avant-garde socialiste et président du MDS avant son décès, malheureusement, en 2006, qui disait qu'à chaque fois qu'il y a une révolte en Algérie, la finale se joue toujours en Kabylie. Et c'est le cas actuellement. La situation est très tendue. Ce n'est pas inédit en Kabylie. Nous avons toujours vécu une révolte, comme vous le savez, vous devez le savoir. La Kabylie berce des luttes démocratiques, progressistes et laïques en Algérie. Nous avons toujours vécu ce genre de situation, sauf que aujourd'hui, c'est très différent. Pourquoi ? Parce que le pouvoir a essayé de trouver... un justificatif pour s'attaquer encore une fois, une énième fois à la Kabylie. Et cette fois-ci, c'est très dur, parce qu'en fait, on interpelle des militants pacifiques, des militants démocrates et laïcs, et on leur inflige l'accusation d'appartenance à un groupe terroriste. C'est ce qui inquiète tous les militants et militantes en Kabylie. Et au jour d'aujourd'hui, on compte déjà une vingtaine de militants en présent pour cette accusation. C'est ce qui est très grave. Et le problème, c'est que, en analysant un peu le contexte et la situation, je ne sais pas si vous allez poser cette question, mais je vais enchaîner sur ça parce que
vas-y,
j'ai envie de vous expliquer un peu le contexte. Du moins, pour moi, journaliste et militant démocrate, moi, je pense que le pouvoir, en fait, gérait sa propre. En parlant du Hirak algérien, le pouvoir gérait sa propre transition en parallèle avec le mouvement populaire. Sauf que ceci, le mouvement populaire lui-même ne l'a pas compris depuis le début. Et la transition du pouvoir algérien se basait sur trois points importants, qui est d'abord l'élection d'un président, une nouvelle constitution et un nouveau parlement. D'ailleurs, avant la dernière élection frauduleuse, dans laquelle la Kabylie était quasiment boycottante, la Kabylie a boycotté, et ce n'est pas une première fois, zéro vote en Kabylie.
Tu veux dire qu'il y a eu...
C'est là où ils nous ont sorti le fameux décret dans lequel on disait que le MAC est considéré désormais comme une organisation terroriste. Le MAC, et pour vos auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas ce mouvement, c'est un mouvement démocrate, c'est un mouvement pacifique, comme il y en a d'autres aussi, il n'y a pas que le MAC. Il y a aussi d'autres mouvements qui s'appellent AHEL, le RPK qui défend plus ou moins l'option d'une autonomie en Kabylie dans le cadre algérien, donc différents mouvements, qu'on peut qualifier de kabylistes donc, qui se battent en faveur de la Kabylie. Mais ce sont des mouvements pacifistes qui n'ont jamais prôné la violence dans leur combat et dans leur lutte. C'est des mouvements démocrates et laïcs. Et donc le pouvoir, on a choisi un pour la symbolique, parce que c'est le MAC le plus connu, parce que c'est le premier mouvement indépendantiste kabyle qui a été créé. Et c'est le mouvement qu'on connaît, parce qu'il y a aussi le côté communication qui joue un rôle très important. Donc quelques jours avant, le pouvoir algérien est donc par son haut conseil de sécurité. Donc cette fois-ci, c'est les militaires qui ont décidé, ce n'est plus les politiques. Et les militaires ne rigolent pas, justement. Quand ils ont décrété le MAC comme étant une organisation terroriste, c'est là où nous avons tout compris. En fait, le pouvoir pense avoir achevé sa transition qui devait finir par l'élection d'un nouveau parlement, ce qui a été fait. Sans la Kabylie, cela apparemment a peu d'importance pour eux. Et c'est la première fois où l'opposition kabyle n'est pas représentée dans le parlement algérien. Et donc, sa stratégie est quoi? Ils savent que tant que le mouvement populaire est en Kabylie, tant qu'il existe encore des manifestations en Kabylie, il y a toujours espoir de reprendre les actions dans le reste de l'Algérie. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'après l'élection, avant même et après, le pouvoir algérien a réussi à étouffer toutes les luttes dans le reste de l'Algérie. Il a réussi même à arrêter le Hirak dans la capitale, ce qui est incroyable. Avec toutes les centaines de milliers de Hirakistes à Alger, il a réussi à le faire en une semaine. Plus de manifs dans toute l'Algérie. Les seules manifs qui restent dans le cadre du Hirak, c'est en Kabylie. Maintenant, comment s'attaquer à une région comme la Kabylie? Ils savent que ça ne sera pas facile, et du moins, ils s'en sortira pas vainqueur, mais vaincu dans cette histoire, notamment devant l'opinion internationale, en s'attaquant frontalement à la Kabylie. Donc, il a trouvé la stratégie de comment étouffer la lutte en Kabylie, tout en empêchant de provoquer une solidarité dans des autres régions. Parce que dans les autres régions, notamment arabophones, dire que le pouvoir s'attaque à des indépendantistes terroristes, cela ne va pas forcément provoquer la solidarité envers la Kabylie. Il a trouvé donc la stratégie de comment étouffer la Kabylie tout en empêchant de provoquer la solidarité des autres régions. Parce qu'en fait, hormis la Kabylie, les mouvements indépendantistes kabylistes sont mal reçus ailleurs. C'est impensable pour les autres. Pour ne pas utiliser des termes peut-être qui peuvent choquer. Et donc, maintenant, on peut me dire, alors comment il allait le faire? Nous connaissons l'histoire de la Kabylie, nous connaissons la collectivité, la solidarité en Kabylie. Surtout, nous savons qu'en Kabylie, malgré la diversité politique qui existe dans cette région, quand il s'agit de la Kabylie, toutes les tendances se convergent autour du même objectif, donc la Kabylie en question. Donc, évidemment, ils ont commencé par interpeller des personnes des villages. Ils envoient la gendarmerie pendant des horaires durant lesquels la gendarmerie, normalement, n'avait pas le droit d'intervenir. Ils interviennent à 5h du matin, ils interviennent à 1h, à minuit, pour interpeller des personnes. Et donc, cela, évidemment, sera refusé par les villageois. Les villageois, comme on connaît la tradition kabylie, ils n'accepteront jamais des forces de l'ordre, des corps sécuritaires, de venir dans leur village et interpeller des gens. C'est inacceptable. Ils ont commencé aussi, évidemment, par interpeller les leaders kabyles, dont Bazizé Tchoubib, Hamou Boumeddine, Hossein Azem, c'est des militants connus dans la région. Cela, évidemment, il pousse la Kabylie à se révolter. Ce n'est qu'en ce moment-là que la Kabylie va offrir la chance attendue par le pouvoir, celle de justifier une intervention. Et c'est ce que nous craignons. Mais dans tous les cas, la Kabylie est visée. Et nous vivons des moments très, 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 très durs. Parce
je peux,
que.
Je peux, devant, je peux te poser une question après?
Oui, oui.
Oui, je voulais te poser. J'ai deux, trois questions. Bon, il nous reste en gros 10 minutes à peu près, un peu moins de 10 minutes. La première, c'est toutes les personnes là, que tu as citées qui sont incarcérées depuis plusieurs jours dans les prisons algériennes. Elles sont officiellement incarcérées. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur est reproché? Et surtout, du coup, qu'est-ce qu'elles risquent? Combien de temps elles risquent d'être incarcérées? Et quelles sont les chances pour les en faire sortir?
Les faire sortir, aucune chance.
Aucune, ok.
Aucune chance, hormis l'embrasement de la Kabylie et dans une révolte. On ne sait pas comment et quand ça va finir. C'est ça le problème.
Comme en 2001,
le problème, c'est que ce qui nous inquiète, exactement. Ouais. Ce que j'ai oublié de dire, pourquoi le pouvoir algérien veut éviter la solidarité des autres régions, c'est pour réprimer la Kabylie à huis clos, comme ça a été le cas en 2001, quand, de par la propagande, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de médias libres. D'abord, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de médias libres, hormis les quelques organes de la presse écrite qui continuent à résister. Ce n'est pas facile. Moi, j'ai été à Ouattan, et depuis 2014, il y a des restrictions financières. Donc, le pouvoir algérien appelle même les entreprises privées pour leur dire « Vos données, vos pubs, vos annonces à El Ouattan, vous n'aurez plus de projet. » Vous voyez où on en est arrivé? Donc les rares organes qui continuent à écrire et à résister ne peuvent plus le faire aujourd'hui parce que nous vivons sous une dictature. Moi, j'ai qualifié le pouvoir algérien actuel de pouvoir néocolonial. Il ne sert plus les intérêts des Algériens. Il sert leurs propres intérêts et les intérêts de leurs alliances.
Alors justement...
Pour moi, c'est un pouvoir étranger. Moi, je ne leur donne pas je ne le reconnais pas, l'algérianité.
Justement, à l'échelle internationale... Vas-y, finis ta phrase.
Pour répondre à ta question, c'est que on leur inflige des accusations d'appartenance à un groupe terroriste. Ça veut dire, là, on parle de l'ordre du criminel. Il est criminel, c'est plusieurs années. D'abord, quand il s'agit de ce genre d'affaires, il faut d'abord achever l'instruction. L'instruction peut prendre jusqu'à 2 ans. Ça veut dire ils peuvent être jugés dans 2 ans. Personne ne sait. Et dans 2 ans, ils peuvent être condamnés à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Tout est possible dans ces situations. C'est exactement comme ça a été passé au RIF, les militants RIFains, dans le Zefzefi. Ils ont été condamnés à 20 ans de prison ferme. C'est ce qu'ils préparent en Kabylie.
Alors, en ce qui concerne, puisqu'on n'a quand même plus beaucoup de temps, tu l'as dit, dans le reste de l'Algérie, a priori pour l'instant, la révolte du Hirak s'est affaiblie par rapport à ces derniers mois, ces dernières années.
Elle a été matée.
Elle a été complètement matée. Donc, matée, les dernières poches de résistance sont en Kabylie. Quel conseil tu pourrais nous donner à nous, là, Français à Lyon, ou habitants en tout cas de France, comment à l'échelle internationale internationaliser la cause?
Oui. D'abord, il faut qu'on commence, nous, d'abord en Kabylie en particulier et en Algérie d'une manière générale. Moi, je pense que dans un contexte aussi particulier, il faut d'abord éviter l'isolement de la Kabylie.
Justement, Mziane, la Kabylie, elle a cette chance d'avoir une forte immigration, une grande diaspora.
Justement, je commence par l'Algérie, et après la Kabylie, l'Algérie. Après, je reviens vers la France et ailleurs.
Vas-y.
D'abord, la plus grande erreur, c'est de permettre l'isolement de la Kabylie. Isoler la Kabylie, comme ça a été le cas en 2001, parce qu'en 2001, le pouvoir, j'avais commencé, je n'ai pas fini. On n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas de médias libres. Et donc, le seul média qu'on avait, c'était la télévision publique.
Il y avait
et
le
donc,
matin
le pouvoir algérien.
À l'époque.
Vous m'entendez?
Oui, Mziane.
Oui, on t'entend.
Il y avait des journaux qui ont payé le prix cher, comme le matin de Benchikou.
Oui, bien sûr. Bien sûr, mais le matin ne pouvait pas faire le poids aujourd'hui devant les réseaux sociaux, devant d'autres médias, y compris internationaux.
Tout à fait.
Et donc, à l'époque, le pouvoir algérien a réussi, de par sa propagande et sa communication, à convaincre le reste de l'Algérie que la Kabylie, à l'époque, qui avait des revendications nationales, comme étant un mouvement indépendantiste non-musulmans, sionistes, tout ce que vous voulez, seulement pour empêcher sa solidarité envers la Kabylie. Et s'il réussit encore une fois à l'isoler et à la réprimer à huis clos, ce sera fatal pour la Kabylie. Donc je pense d'abord, un, éviter l'isolement de la Kabylie. De deux, il faut que les démocrates et progressistes prennent position par rapport à ce qui se passe au Kabylie. Mais ça, c'est une partie de la solution. La plus grande solution, c'est l'union de toutes les forces, qu'elles divergent ou pas, de toutes les forces en Kabylie. Et la solidarité de tous les villages, comme nous connaissons la Kabylie. Il faut que les villages se soulèvent. Il faut qu'il y ait une solidarité active par rapport à ces gens-là. Il faut qu'ils freinent cette machine destructrice du pouvoir. Ça, c'est de un. De deux, à l'international. Moi, je crois beaucoup à la solidarité entre les peuples. Je ne crois pas à la solidarité entre les pouvoirs ou les régimes. La solidarité entre les peuples. Il faut, quand il y a des actions, il faut être là. Quand il y a des actions, il faut les personnes qui connaissent des médias, il faut les inviter à venir, à écouter. Il faut permettre aux Kabyles de s'exprimer. Il faut permettre aux Kabyles d'internationaliser leurs cris. C'est ce que nous pouvons faire à l'international. Hormis la solidarité entre nous, populaires, hormis médiatiser la cause et la situation en Kabylie, je ne vois pas d'autre issue. Après le plus grand travail, nous devons le faire en Kabylie. Il est temps que tous les Kabyles s'unissent pour sauver la Kabylie, parce que le plan que prépare le pouvoir, moi je vois vraiment sombre l'avenir de la Kabylie. Parce que si c'était une décision des politiques, j'aurais pu dire que c'est une position qui peut s'inscrire dans un contexte particulier. Mais c'est une décision des militaires et les militaires ne rigolent pas. D'ailleurs, on a vu la preuve que plusieurs militants sont aujourd'hui en prison pour des accusations liées au terrorisme.
Très grave.
Dire que la Kabylie, qui c'est la région qui a voté d'abord démocrate au moment où toute l'Algérie a voté islamiste, la région qui s'est soulevée contre le terrorisme et qui a payé très très cher, la région qui s'est soulevée contre l'islamisme et continue à résister à l'islamisme, aujourd'hui on accuse nos leaders, nos femmes et hommes, militants qui se battent pour la démocratie et la laïcité, on les accuse d'islamisme. Et ça, c'est très grave.
À Lamziane, il y a peut-être une lueur d'espoir. J'ai appris la nouvelle. Alors, hier, la population de Frekat s'est mobilisée. Il y a une grande mobilisation. Et ils ont sorti les 5 militants de la gendarmerie.
Oui, c'est une très, très bonne nouvelle. Et moi, je suis convaincu que sans leur présence devant la justice ou devant les commissariats, et on a vu aussi des cas ailleurs. Sans ça, peut-être que les militants en question ou les manifestants en question auraient pu peut-être finir très mal. Heureusement, et c'est des actions qu'on peut encourager, tout en gardant évidemment notre pacifisme, parce que nous n'avons pas les moyens qu'a le pouvoir algérien. Nous n'avons que nos idées et nos cœurs. Donc pour eux, nous n'avons que le combat pacifique devant nous. Nous n'avons pas autre chose.
Et comme dirait, alors je ne sais pas si c'est Bourdieu, Bourdieu ou alors Karl Marx, il parle de république, les républiques de Kabylie.
C'est presque pareil. Non, c'est...
Donc voilà, moi je pense que les villages, les comités de villages, la structuration des villages est très très importante à Mziane. Voilà.
Abiane, Mziane, on va...